Bonjour, eh bien Raymond Richard au micro, nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Alors il y a autour du micro Monsieur Enbati pour les musulmans, Monsieur Bianchi pour les protestants, Madame Matelet pour les catholiques.
Bonsoir.
Et eh bien nous allons reprendre notre dialogue interreligieux. Et dans un premier temps, on va évoquer peut-être une rencontre qui a eu lieu à Dreux. Monsieur Enbati, vous nous parlez un peu de cette rencontre sur l'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité. Vous avez réuni
absolument.
Un certain nombre de personnes.
Tout à fait. C'est un dîner-débat qui est organisé chaque année par l'Union franco-algérienne. C'est une association drouaise. Et cette année, ils ont choisi d'inviter le professeur Mustapha Cherif, qui est philosophe et islamologue, qui est venu nous parler d'un de ses livres qui est sorti récemment, qui parle de l'émir Abdelkader, dont le titre du livre, c'est « L'émir Abdelkader, apôtre de la fraternité ». Et toute la conférence a tourné autour de la fraternité, des relations interreligieuses et une présentation surtout de la religion musulmane, comme on l'entend très rarement. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient présentes. Ensuite, il y a eu un échange avec l'intervenant et ça a été suivi par un dîner qu'on a partagé tous ensemble.
Ce qui est intéressant, puisque je suis professeur d'histoire, c'est qu'en fait, pour moi, Abdelkader, c'était le monsieur dont on avait pris la smala au moment de la guerre et de la colonisation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est comment, finalement, d'une époque à l'autre, on revoit l'histoire. Parce qu'il y a une histoire qui existe, la colonisation est un fait, Abdelkader a existé, mais il n'empêche que sur lui, on peut poser des regards différents.
Absolument, tout à fait.
Et ça, c'est intéressant de voir que, au travers des époques, dans certains cas, on revisite le passé à la lumière du présent ou de ce qu'on vit.
Il y a une phrase que j'ai retenue qui disait que un ennemi n'est jamais éternel et un ami n'est jamais éternel. Il n'y a que des intérêts. Donc, réunissons-nous, échangeons, dialoguons et nous trouverons des liens les uns les autres, quelle que soit notre religion. Et c'est dommage qu'on l'entend pas très souvent, mais je vous conseille vivement de lire son livre. C'est pas un très gros livre, mais qui présente assez brièvement la vie de l'émir Abdelkader et surtout sa pensée. Ses ennemis d'hier sont devenus ses amis d'aujourd'hui.
Et puis en tout cas, bon, l'appel à la fraternité, bien dans cette émission, vous vous rendez bien compte que si nous nous donnons mutuellement la parole et si nous discutons, c'est parce que nous pensons
absolument
qu'il est important de faire tomber les préventions et de s'expliquer justement. Alors, aujourd'hui, on avait pensé parler des usages alimentaires, parce que c'est vrai qu'il y a eu récemment la fête du mouton, qu'on a vu dans le journal les questions concernant l'abattage des animaux, et ça renvoie aussi dans ce débat sur les cantines aux usages alimentaires. Alors, on peut parler des usages alimentaires qui ont existé et qui existent encore pour les chrétiens.
Pour les catholiques, c'était avant le vendredi, on ne mangeait pas de viande. Et la semaine sainte, on jeûnait, donc pas de viande, même pas de poisson. C'est devenu une coutume qui a été laissée un peu de côté. Sauf qu'avant Pâques, pendant le carême, on invite quand même les chrétiens, les catholiques, à jeûner, à s'abstenir de manger trop, sur tous les plans. Enfin, un jeûne qui soit un retour vers Dieu. Hein,
C'est-à-dire que ce n'est plus simplement le jeûne alimentaire, c'est un jeûne qui concerne aussi peut-être se priver de télévision pour
penser
mieux
exactement,
à son voisin.
Voilà, exactement.
Hein. Oui, ça permet de la réflexion.
Voilà,
ça incite à la réflexion. Parce qu'effectivement, on est tellement pris dans un certain nombre d'habitudes, et puis on ne prend pas le temps d'entendre, de réfléchir et d'entendre.
Donc,
mais chez nous,
pour les protestants, voilà.
Pour les protestants, il y a peu de, il n'y a pas de d'affirmation effectivement, nos aïeux respectent encore le vendredi, si possible. Ça fait du bien.
De viande.
Pas de viande. Et puis, je crois qu'on arrive petit à petit à se forger l'idée de manger d'une façon utile pour le corps et non pas pour le goût. Je crois que c'est une petite nuance qui, des fois, a son intérêt. Effectivement, le vendredi saint aussi, c'est pareil. on a suivi cette coutume. Est-ce qu'on appelle ça une coutume? Est-ce que c'est une coutume? C'est une habitude? Mais effectivement, c'est, je pense que c'est une chose
en
qui...
En tout cas... Pardon, oui, vous
poursuivez. Non, mais je vous prie. Mais c'était... pour nous, c'est important, je crois, pour les gens qui sont chrétiens, qui vivent avec la Bible ouverte. C'est un moment de
se retourner
autre,
vers Dieu.
Autre, ouais. Voilà.
On prend le temps de se tourner voilà. vers Dieu.
Il y a un prêtre qui disait, je l'ai entendu il y a quelques années, c'était une façon de prendre conscience de nos addictions. J'ai trouvé ça intéressant. Nos addictions, quelles qu'elles soient, addiction à manger beaucoup, addiction à prendre certaines substances, addiction à regarder, comme vous dites, la télévision, à avoir de la musique toute la journée dans les oreilles. Prendre conscience de nos addictions et se sevrer de tout ça, essayer de vivre beaucoup plus simple, beaucoup plus pour être plus disponible pour la prière et pour Dieu.
Alors, il reste que les usages alimentaires antérieurement avaient quand même un sens beaucoup plus important parce qu'on était dans une société où on ne mangeait pas toujours à sa faim et en plus, pendant le carême, se priver de, ou être privé de protéines, ça voulait dire quelque chose de très dur. Pour,
c'est mortifiant.
Oui, pour les personnes. Et effectivement, on a un peu oublié cet aspect de se tourner vers Dieu parce que finalement, on se privait vraiment de façon sévère. De nourriture et ce qui nous amenait, pensait-on, à donner plus de place au Seigneur. Et alors dans la religion musulmane, il y a encore ces... On l'a évoqué à cause des cantines. Alors je pense que les cantines, c'est le petit bout de la lorgnette, mais en soi, quel est le sens qu'il peut y avoir, justement
dans la religion musulmane, il y a deux interdits.
Bon,
il y a le jeûne du Ramadan, mais... Les deux interdits que vous connaissez tous, certainement, c'est la consommation de viande de porc et tout ce qui est boisson alcoolisée. Mais concernant le mois du Ramadan, effectivement, c'est un mois durant lequel le musulman est appelé à réduire cette surconsommation que nous vivons tout au long de l'année pour tendre à essayer de ressembler aux anges qui, eux, dans la tradition musulmane, ne mangent pas et ne boivent pas. Donc essayer de retisser des liens et de renforcer ces liens avec Dieu. Donc ce qui voudrait dire que trop manger et trop boire nous éloigne spirituellement. Et donc durant ce mois-là, normalement le musulman, pendant ces 30 jours, 29 ou 30 jours, doit faire un exercice, un espèce d'entraînement pour pouvoir vivre toute l'année très proche de Dieu.
Donc, dans tous les cas, on s'aperçoit que ces privations alimentaires n'avaient pas un objectif en elles-mêmes, mais qu'elles voulaient signifier un temps, une certaine assaise pour retrouver le sens de Dieu et le sens des autres.
Absolument, tout à fait.
Parce que j'imagine que l'économie qui est réalisée ainsi, en principe, ce n'est pas fait pour faire la fête au moment de Pâques ou la fête
le soir du Ramadan, oui, les nuits de Ramadan.
La rupture de jeûne, c'est aussi pour penser aux autres.
Absolument, partage. Tout à fait, à penser aux gens qui n'ont pas...
Il y a la notion de partage.
La notion de partage reste très importante. Par contre, effectivement, on a aussi évoqué, en lien avec les interdits alimentaires, en tout cas pour les musulmans, c'est vrai qu'on évoque souvent, et dans les magasins, la viande halal.
La viande halal. Alors, donc, je ne vous cache pas qu'il y a tout un débat autour de ce terme halal, qui n'est pas reconnu d'ailleurs en France, qui n'a aucune certification officielle. Et donc, il y a tout un commerce qui se développe autour. Je veux dire, il n'y a pas que la viande qui est halal, il y a aussi des maquillages qui sont halal, il y a des bonbons halal, on a trouvé aussi des œufs halal. C'est pour vous dire,
que... Oui, donc ça, c'est un peu tout et n'importe quoi.
C'est du n'importe quoi. Alors que le terme en lui-même, c'est éviter de consommer des animaux qui ont été égorgés, sacrifiés à autre que Dieu. Pour le musulman, tout ce qui est nourriture de chez les chrétiens, ce qu'on appelle les gens du livre, est autorisé. Donc, on a dépassé l'époque des idolâtres qui sacrifiaient des animaux à différentes divinités. Le but, il est là. Mais maintenant, vu qu'il y a un tel commerce, on parle en milliards d'euros et de dollars, donc les savants musulmans, les théologiens musulmans, c'est un sujet qui est délicat à soulever. Mais sinon, normalement, le musulman est autorisé à consommer la viande, du bœuf, de la volaille ou autre que du porc.
Puis l'interdit porte sur le porc.
Absolument. L'interdit porte, l'interdit est clair, net, c'est sur le porc. Mais tout ce qui est viande halal, donc il y a un débat autour de ça. Est-ce que ça va changer? Je n'en sais rien.
Je dans la mesure où l'économie halal, s'est
ça mis correspond à la mise à mort de l'animal ou pas?
Halal, ça veut dire non, c'est d'ici, c'est si vous l'entravez.
Est-ce que c'est le phénomène de égorger ou
égorger et saigner complètement? Et saigner. Le sang, c'était la vie. Dans la Bible, en tout cas, c'est ça. Ouais. Le sang est la vie. Donc, puisque le sang est la vie, on ne peut pas absorber du sang.
Voilà.
Donc, il faut que l'animal soit
saigné.
Et un jour, peut-être, on met pas aujourd'hui.
Après qu'il soit saigné par un juif, un chrétien ou un non-croyant, le problème, il n'est pas là. C'est qu'il faut que l'animal ne soit pas sacrifié à autre, à une autre divinité.
Voilà.
Mais
ce qui serait intéressant, c'est
de
Est-ce qu'il y a un induit derrière que la bête doit être. On doit faire attention à la façon dont elle a été traitée.
Voilà.
Moi, je trouve
ça
important.
Je vous invite à lire un livre, j'ai oublié le nom de l'auteur, ça s'appelle, pour vous dire, La Bible du Halal.
Oui.
Et dans lequel il dit, je résume assez rapidement, que dans certains pays où on fait travailler des gens à une époque, l'esclavagisme, c'est pas halal, et pourtant ces pays-là sont des pays musulmans qui prônent la consommation de viande halal, où on fait travailler des enfants qui sont pas en âge de travailler, qui devraient aller à l'école. Et ça, ce n'est pas non plus halal. Je vous invite à le lire, j'essaierai de retrouver le nom de l'auteur, ça s'appelle La Bible du Halal, et vous comprendrez, et qui, lui aussi, là, il tend vers cette compréhension du halal.
C'est le respect du vivant, en fin
absolument.
Le respect de l'autre et le respect du vivant. Donc là, effectivement, nous nous éloignons des interdits alimentaires pour poser la question de quelle est la dignité de l'homme que l'on reconnaît dans chacune de nos religions. Et c'est vrai que le débat autour du halal ou du pas halal, on pourrait peut-être se poser la question, que respecte-t-on lorsqu'on laisse mourir de faim
des femmes, des enfants ou,
voilà, et qu'il y en a 1 million qui meurent de faim tous les ans.
Tous les ans.
Oui, ce qui serait intéressant, c'est simplement dans votre idée, c'est pourquoi le porc est interdit. Enfin, est interdit, n'est pas, et l'animal mis à l'index.
En plus, donc,
mais on va pas peut-être en discuter maintenant, si vous voulez, si vous avez quelques mots à dire. Mais je pense que j'ai toujours été frappé par ça, parce que effectivement, pour moi, c'est un animal qui est élevé dans des fermes, etc. Et pourquoi serait-il rejeté par rapport à d'autres? Alors, je pense que, pour moi, personnellement, je crois que c'est une question de nourriture de l'animal.
Certainement,
on lui donne n'importe quoi, mais c'est le seul animal.
D'après ce que je sais, c'est qu'il est interdit
dans
la Bible aussi, et chez nos
chez
amis
les
juifs également.
Mmh. Donc, oui, c'est pas spécifique, mais c'est... Alors que
c'est un animal qui mangeait tout, qui mangeait n'importe quoi.
Au niveau hygiène, c'est pas... C'était pas où ça...
Voilà, non, mais c'est sûr.
C'est un animal qui est plus porteur de germes et de parasites que les autres.
Tout à fait. C'est ce qui est avancé, c'est les arguments qui sont mis en avant. Donc après, c'est dans le Coran, en tant que croyant, on doit obéir aux ordres divins, donc on s'attarde pas à trop philosopher, à savoir le pourquoi, le comment.
Voilà, alors on évoquait donc ces questions des interdits alimentaires dont on perçoit aussi la dimension économique qui n'est pas absente des préoccupations de nos contemporains. Donc peut-être faut-il revenir à ce sens. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui nous donne la nourriture et c'est peut-être se retourner vers lui et reconnaître ce qu'il nous donne. Nous allons faire une pause musicale et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons vraisemblablement un autre thème. Nous sommes toujours dans l'émission Mosaïque avec les amis musulmans, protestants et catholiques, bien sûr. Tout à l'heure, nous avons évoqué des usages alimentaires, mais en ce moment, on parle des femmes sur le plan international et dans beaucoup de lieux, on parle des droits de la femme. Et il se trouve que dans nos églises, elles ne brillent pas forcément par la place égale reconnue aux femmes. Je crois que c'est peut-être enfoncer les portes ouvertes que de dire ça, non ?
Je pense que les femmes, au contraire, elles sont en nombre quant à la participation aux offices religieux. Hein, on le dit toujours, il y a plus de femmes.
Mais par contre, pour les décisions prises et les réflexions,
Quoique, il ne faut pas exagérer. Je pense que les femmes, maintenant, depuis quelques années, depuis Vatican, je pense on les fait participer à des groupes. Alors, entre autres, elles font
la... On les fait participer.
Ou elles participent à des groupes. Hein. Elles sont accueillies. Hein.
Oui.
Mais elles font la catéchèse. Elles ont revendiqué pour catéchiser les enfants. Et d'ailleurs, les curés étaient très bien, très contents d'avoir des femmes qui venaient leur prêter la main forte
pour faire l'éducation
religieuse des enfants. Et puis les femmes, moi j'en ai fait partie, les femmes ont pu devenir ce qu'on appelle animateurs en pastorale, c'est-à-dire qu'elles sont présentes, par exemple animateurs en pastorale catéchétique, animateurs dans la pastorale du deuil, animateurs, etc. Et il y a même des femmes qui ont été aumôniers, moi j'en ai connu une, aumônier à l'hôpital de Dreux. Donc ça veut dire qu'effectivement on reconnaît aux femmes quand même...
Cette capacité d'accompagner au nom de l'Église.
Au nom de l'Église. Hein. Et récemment, là, je viens de lire dans la croix de vendredi d'aujourd'hui, du 25 novembre, le diaconat féminin à l'étude à Rome. Voulu par le pape François, au mois de mai, la commission d'études sur le diaconat des femmes se réunit aujourd'hui pour la première fois au Vatican. Hein. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que... moi, j'aime pas qu'on dise que les femmes revendiquent pour être prêtres, revendiquent pour... Non, c'est pas en ces termes-là qu'il faut en parler. C'est peut-être que les femmes, au travers de ce ministère, ont des choses à apporter aussi. Parce que la diaconie, c'est être au service d'eux. Et je pense que...
Déjà au temps de Saint-Paul, quand voilà, il écrivait exactement. Qu'il était accueilli par Lydie et ses compagnes, voilà. Et que on parle de femmes qui sont dans cet environnement de l'Église primitive.
Oui.
On avait un peu oublié entre-temps, entre Saint-Paul et puis maintenant, peut-être.
Donc, je pense que ça va être un débat intéressant, parce que je pense que là-bas, au Vatican, ça ne doit pas être... Il y a sûrement des prélats qui ne vont pas beaucoup apprécier qu'on mette les femmes... Mais enfin, bon, ça veut dire que ça se réfléchit. Et je pense qu'il faut faire attention à dire que c'est une prise de pouvoir des femmes, parce que c'est pas en ces termes-là, je pense qu'il faut le positionner.
Pouvoir est un service.
Voilà.
On voit...
Même les prêtres, hein, on ne dit pas qu'ils ont pouvoir, ils sont au service d'une communauté, au service... c'est les serviteurs du Christ. Hein.
Dans la pratique, c'est un...
Qui a été reconnu, et... pour la petite histoire, mon frère est mort à la guerre et il était enterré à Alkirch. Et alors, Alkirch,
mes parents
sont allés et on demandait de voir le pasteur. Et on leur dit, ben non, c'est pas un pasteur, c'est une pasteuse. Mais donc, c'était une des premières femmes pasteurs. Mais après ça, ça s'est répandu. Maintenant... on a quand même, et c'est assez curieux, je partage un peu votre idée, c'est que la responsabilité, on ne l'a pas donnée entièrement aux femmes. Par exemple, pour être président de région, de régionale, l'Église protestante en France est faite par région, des grandes régions, et je ne connais pas de femmes présidentes de région. Mais ça vient. Par contre, dans le conseil régional, autour des gens qui sont élus par des délégués, etc., il y a énormément de femmes. Il y a au moins la moitié, je pense que ça
paraît. Pas hein?
Mais effectivement, vous parliez de l'instruction religieuse. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse, j'ai été instruit par des femmes. Et maintenant, quand on regarde bien la Bible, la place des femmes dans la Bible n'est pas secondaire, bien au contraire. Je pense que tout ce qui rêve autour du Christ, il y avait le rôle des femmes n'était pas négligeable. Et on nous l'a suffisamment raconté. Mais on n'a pas mis tellement, on a on a été macho. Hein,
bah, assez en fait, c'est pas tellement, c'est pas l'Église en tant que telle, mais l'Église, elle est dans une société. Si la société est machiste et si la femme a un rôle de second plan dans la société, on voit mal comment dans l'Église il aurait pu en être autrement.
Oui, mais c'est si dans l'Église protestante, dans les Églises protestantes, les femmes sont vraiment absolument en égalité, c'est là où je trouve qu'il y a une recherche actuelle entre l'homme et la femme. Il y a des choses qui sont complémentaires et des choses qui peuvent être égales. D'autres qui ne le sont pas forcément. C'est la nature même
des individus. C'est vrai aussi l'étude de la Bible, on voit, elle n'est pas sexuée. Quoi. Lire la Bible, c'est pas
oui,
sexuée.
Voilà, bien sûr.
Non. Ça me paraît évident. Donc, alors dans l'islam, par contre, c'est vrai que souvent, lorsqu'on évoque la querelle du foulard ou bien ce genre de choses, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a 25 ans, par exemple, les Drouaises, il y avait beaucoup moins de foulards, alors qu'il y avait quand même pas mal de jeunes femmes et de jeunes filles musulmanes. Et puis maintenant, on stigmatise le foulard. Et en fait, à quoi cela tient, ce retour du costume? Est-ce que c'est parce que l'on a fait un approfondissement? Parce que, voilà, expliquez-nous un peu.
Ce retour du foulard, normalement, la femme, il n'y a personne qui peut l'obliger à porter un foulard religieusement. Il est totalement interdit d'obliger qui que ce soit à croire ou ne pas croire, déjà, pour commencer.
Liberté religieuse totale, ça c'est...
Absolument, c'est répété plusieurs fois dans le Coran, il y a plusieurs passages, il y a même une sourate entière qui nous dit qu'on ne peut pas obliger les gens à croire. Sinon c'est plus de la croyance, après c'est pas de la foi, on peut appeler ça comme vous voulez. Et concernant le foulard, c'est un cheminement normalement spirituel, c'est qui n'est pas obligatoire, hein. Les femmes musulmanes qui ne portent pas le... Il n'y a pas de châtiment pour la femme musulmane qui ne porte pas de foulard. L'obligation, elle est personnelle, c'est à vous, c'est vous-même qui
choisissez. Donc, c'est plutôt partie des usages culturels, exactement comme il y a à une certaine époque, quand on entrait dans une église, les hommes étaient découverts et les femmes devaient aussi avoir
une sourate musulmane, le fait de le porter ou pas. Mais pour venir à la présence de la femme dans la mosquée, là, c'est un autre souci. On ne peut pas faire évoluer une société en ignorant la moitié de cette société. C'est pas possible. Donc, moi, ce que je reproche aux musulmans, c'est que les conseils d'administration des associations qui gèrent les lieux de culte, les femmes sont totalement absentes. Actuellement, en France, je parle d'en France, hein, les femmes sont totalement absentes. Donc, moi, j'appelle les femmes musulmanes à rentrer en force dans ces lieux et voilà, à s'imposer et faire évoluer les choses. Parce que nous, les hommes, je suis désolé, on ne leur laissera pas la place. On ne va pas les inviter.
Il faut que ce
soit elle qui la demande, qui la prenne et qui se mette en place. Dans l'islam, la maman, c'est le pilier de l'éducation. Donc comment vous voulez qu'on éduque une famille musulmane si elle-même, la pauvre femme, elle est limitée en connaissances religieuses et qu'elle ne s'implique pas dans le fonctionnement d'une mosquée et toute l'éducation qui est enseignée?
Surtout dans nos sociétés occidentales, puisque là nous évoquons bien sûr ce qui se passe en France.
Absolument, en France, je parle en France. Bon, il y a d'autres pays où la femme est beaucoup plus impliquée, qui ont des postes à responsabilité au sein des lieux de culte musulmans.
Ah, ça c'est intéressant.
Oui, c'est très rare. Il y a même, bon, après c'est les États-Unis, ça c'est un autre monde, mais il y a même des mosquées qui sont réservées exclusivement aux femmes et qui sont gérées par des femmes et que même l'imam est une femme.
Mais est-ce que dans les mosquées en France, il y a une séparation à la mosquée, homme et femme?
Oui, il y a une séparation homme-femme, mais
et
à l'origine...
Elle est justifiée par quoi?
Par les usages, non?
Par les usages, les usages. Et coutumes. Parce qu'à l'origine, les mosquées, il y avait certes les femmes qui étaient dans la même salle, mais il n'y avait aucune séparation entre les hommes et les femmes. Au temps du prophète, il n'y avait pas de séparation entre les hommes et les femmes.
Et c'est venu petit à petit.
Parce que bon, ils étaient de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, donc il fallait faire d'autres salles et puis d'autres ont construit des murs.
Et c'est la même chose qu'à la religion juive. Il y a une séparation. Et alors, ce qui m'étonne le plus, c'est que la filiation juive, c'est par la mère.
Mmh. Oui.
Et la mère n'est pas reconnue comme. Sur le plan d'ensemble, l'ensemble de la religion. Moi, j'ai toujours été un peu estomaqué de voir dans cette religion-là, ça me questionne, ça, c'est tout. Ça. Mais de voir que la femme c'est par elle que se fait une filiation.
Absolument.
Actuellement, moi, je connais beaucoup de cas où on qualifie une personne de juif alors qu'il ne peut pas être juif puisque sa mère n'est pas juive. Voilà. Bon, c'est pas. Et puis, on a tenté des procès à beaucoup de juifs, entre parenthèses, qui n'étaient pas juifs d'une façon formelle.
Ouais.
Hein, je pense. Et alors, c'est là où je me dis, est-ce que. Et l'enseignement se fait, pardon, toujours par la femme. C'est là que je comprends mal.
Donc, ça veut dire, en fait, en ce qui concerne la situation des femmes, derrière des faits de sociologie,
oui.
On est plutôt à repérer ce qui se fait dans la société et qui va contaminer d'une certaine manière les églises ou bien la mosquée, enfin disons les lieux religieux qui se trouvent dans ce pays. Et dans la mesure où nous sommes dans un pays plus évolué, eh bien on aura aussi une éducation religieuse autant pour les femmes que pour les garçons. Et puis au contraire, dans les pays où la sociologie fait que les filles sont encore sont moins considérées, eh bien de fait, dans l'Église ou dans le fait religieux, on retrouve aussi cette même relation.
Tout à fait, oui.
Donc ça veut dire que
la culture déteint,
en fait, la culture déteint sur le fait religieux et qu'il ne faudrait pas inverser et dire c'est le fait religieux qui fait que les femmes sont ceci ou cela. Mais
c'est plutôt la culture,
dans la société contemporaine à voir comment chacun peut jouer son rôle pour le bonheur de tout le monde d'ailleurs, puisque vous l'évoquiez pour des relations correctes, vous disiez, dans le monde musulman.
Oui, absolument.
Oui, et je pense qu'à l'heure actuelle, si vous voulez, on a parlé de laïcité, mais je n'ai pas entendu un homme politique qui prévoit un enseignement religieux, c'est-à-dire d'études de religion, dans les établissements scolaires. Or, on a eu un pasteur qui a vécu au Canada, qui était professeur de religion. Et c'est là où on peut comprendre plus facilement les us et coutumes, les raisons pour lesquelles ça, c'est comme ci et comme ça, alors que bien souvent, on se bute. Moi, je crois que...
On manque d'informations
et de formation.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, par exemple, en Italie, il y a un cours de religion. Et pour les gens qui sont athées, il y a un cours de civilisation qui implique une connaissance du fait religieux.
Voilà.
Je crois que ça, c'est effectivement intéressant. Rappelons aussi qu'en Alsace et en Lorraine, il y a toujours ces cours de religion obligatoires. Et
peut-être pas obligatoire.
Qui interviennent, enfin en tout cas ils sont donnés...
C'est actuel.
C'est actuel, oui.
Je pense que depuis quelque temps c'est relativement facultatif. Mais ça s'arrête là. Hein.
Mais
c'est pas dans ce sens-là, parce que dans le sens connaissance de toutes les religions,
oui,
c'est
dans
là
le sens,
que je parle.
Dans le sens
alors qu'en Alsace, c'est bien
en
général, soit les catholiques, soit les protestants et peut-être les juifs, qui ont leur propre cours dans les établissements scolaires.
Alors, pour finir sur cette école, eh bien, je peux vous dire que quand j'étais professeur d'histoire, à peu près la moitié du cours d'histoire de seconde concernait le fait religieux, qu'il soit musulman ou chrétien.
Voilà.
Donc, finalement, il revient peut-être à une société laïque de permettre que chacun puisse avoir, vivre sa religion.
Et de connaître.
Connaître celle des uns et des autres.
Voilà.
Et que quelque part on puisse en avoir ou ne pas en avoir.
Bien sûr.
Le temps s'achève et merci à tous d'être venus à Radio Grand Ciel pour discuter de ces questions. Et aux auditeurs, je dis au revoir et bonne semaine à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.